Bon, on va démarrer. Bonsoir à tous. On entend bien ? C'est notre dernière séance du séminaire sur les commentaires, avant la séance de conclusion qui aura lieu le 13 juin. On va écouter ce soir, dans l'ordre, Françoise Josselin et Colette Solaire, toutes les deux, psychanalystes à Paris, que tout le monde connaît. Tout de suite, Françoise Josselin.
Je voulais faire juste un petit aparté avant de commencer. D'une part, comme nous sommes en fin d'exercice, je m'autorise à remercier les organisateurs de cette nouvelle formule de la soirée des enseignants qui nous a mis collégialement au travail. Par ailleurs, je voulais aussi remercier de m'avoir confié la tâche de cet extrait qui traite de l'un. Alors je me suis demandé, ça c'est pour sourire, si c'était mon nom qui avait induit ça, Josselin. Mais c'est quand même une question qui m'intéresse depuis très longtemps. En fait, c'est la clinique des Sœurs Papin qui m'avait ouvert à cette question il y a plusieurs années, que j'avais intitulée à l'époque « Il n'y a pas de l'un ». Voilà, et je voulais surtout remercier Colette Solaire, grâce à laquelle j'ai pu essayer de m'aventurer dans cet extrait difficilement, mais enfin un peu plus facilement. Voilà. Alors, je l'ai intitulé « Le vrai essaim ». Avons-nous été, à l'instar du rat de laboratoire, condamnés à apprendre à faire signe de notre présence d'unité, sinon ratière, du moins de sujet. Nous sommes de fait, comme sujet, expérimentateurs de notre rapport au savoir, savoir fondé sur un rapport à la langue, cette la langue que nous habitons, et dont les effets nous affectent de façon si énigmatique. Cela a été très bien commenté tout au long de son séminaire. Mais de qui tenons-nous notre la-langue ? Est-ce d'eux, parents et consorts ? Est-ce bien d'eux qu'il s'agit dans le langage ? Et quel sujet en résulte ? Lacan a d'abord porté la question du savoir inconscient sur le S, grand S, indice 2, comme savoir à prélever dans l'autre, Et pourtant, rien venu d'eux, des signifiants de l'autre, ne nous enseigne d'en faire rapport entre les deux jouissances sexuelles de l'homme et de la femme, rapport qui ne cesse de rater du côté de l'être. La question de l'être, dit Lacan au début de ce chapitre, a centré les chemins du savoir, et nous en sommes encore au débat ontologique entre l'idée platonicienne et la définition aristotélicienne de l'individu fondant l'être. Lacan laisse Aristote, pour qui l'individu c'est le corps à forme pleine, l'organisme, ce qui se maintient comme un et non ce qui se reproduit. La reproduction, elle, est la préoccupation majeure du biologiste. Mais comment l'être comme corps peut-il savoir quoi que ce soit ? Lacan se tourne vers Platon, un Platon avant-gardiste, un Platon lacanien, dit-il, dans sa doctrine de l'un, différenciant dans sa huitième hypothèse le un de l'existence du un de l'attribut. L'un est différent de c'est l'un. Un un très particulier qui sépare l'un du deux. Car le savoir de l'un se révèle, dit Lacan dans ce chapitre, ne pas venir du corps. Le savoir de l'un vient du signifiant un. Mon discours, frayage du discours analytique, a passé par l'un. Lacan se réfère à la théorie des ensembles qui énonce le fondement de l'un dans sa bifidité, c'est-à-dire que le un de l'ensemble est différent du un de l'élément, que le un de la répétition n'est pas le même que celui qui se comptabilise. Alors, je vais essayer de procéder en vous disant le texte et après commentaire pour que vous puissiez vous repérer. Donc, le texte de Lacan. Le signifiant un est-il un signifiant quelconque ? Un entre autres. N'étant que la différence avec les autres. Commentaire. La question est si peu résolue, ajoute-t-il, qu'il a fait tout son dernier séminaire, le séminaire ou pire, sur, je le cite, vous allez voir, l'importance de cette chose invraisemblable, l'irruption de cette chose la plus étrange, le côté exorbitant de l'émergence du yadlin. C'est de là que part le sérieux, c'est-à-dire le sériel. Mais qu'est-ce que veut dire yadlin ? Pourquoi l'écrit-il ainsi ? Le yad l'un est une réponse au y'a pas le deux du rapport sexuel. Si le yad l'un met en valeur le y'en a, la question commence à ce que veut dire d'l'un. qu'il écrit sans le de, D-E, pour le sortir de l'indétermination. Il y a de l'un, il y a de l'autre, c'est de l'indétermination. Pour le sortir de l'indétermination. Il y a de là est une jaculation d'existence qui unit corps et signifiant. Je reviens au texte de cet extrait. Il y a de là veut dire que d'un signifiant quelconque se lève un essaim signifiant, un essaim bourdonnant. Commentaire. La théorie analytique dit Lacan voit pointer l'un à deux niveaux. L'un de la répétition signifiante, le deuxième au niveau de l'un tout seul de la jouissance de la parole. D'où une double lecture possible du schéma dans cet extrait. Parce que j'ai oublié de vous écrire au tableau. Donc, première lecture, au niveau de l'inconscient langage, j'étais à montage pour essayer de vraiment déliner, charpenter un peu ce texte. Le S1 est en relation avec le S2, dans la première lecture. J'en reviens au texte. Ce S1 de chaque signifiant, si je pose la question S2 que je parle, EX, actuellement d'apostrophe EX, je l'écrirai d'abord dans sa relation, de sa relation avec S2. Commentaire. Nous avons là la chaîne langagière minimale S1-S2 de l'inconscient langage, matrice du discours du maître, supposant un sujet, et où les S1 reçoivent leur sens des S2, des signifiants de l'autre. Lacan ajoute à l'élément signifiant l'élément joui des traits unaires, dont se marque la répétition comme telle de l'identification, marque symbolique de la rencontre traumatique avec la jouissance, avec la perte de l'objet A. Je reviens au texte. L'S1, l'essaim signifiant maître, est ce qui assure l'unité de la copulation du sujet avec le savoir. Commentaire. L'un du S1, l'un unique de l'ensemble qui peut contenir l'essaim, c'est-à-dire la multiplicité des 1, assure l'unité de la copulation du sujet avec le langage. Qu'entend-il par signifiant maître à ce moment-là ? S'agit-il de l'ensemble vide des 1 de la répétition, des signifiants de la demande et des identifications, ou des 1 des traits unaires qui fixent la jouissance, ou du 1 du symptôme ? Le parlant à 2 mètres, souligne Colette Solaire, l'autre parce qu'il est parlant, le réel parce qu'il est vivant. Après le discours de l'autre, le savoir de l'un. J'en reviens au texte. C'est dans la langue et pas ailleurs, en tant qu'elle est interrogée comme langage, que se dégage l'existence de ce qu'une linguistique primitive a dégagé du terme d'élément, et ce n'est pas pour rien. Commentaire. Mais les traits unaires n'ont rien à faire avec le yadelin de l'élément qui va introduire le grand virage sur le savoir inconscient, sur le rapport du sujet à la jouissance. L'exorbitant de l'émergence de l'un, de l'émergence du S1 des 1 de la langue, a poussé Lacan à inverser son orientation du départ, soit du symbolique vers le réel, du langage vers la jouissance, là où ça jouit, ça parle, pour aller du réel vers le symbolique, en partant de la langue, pour arriver à la thèse centrale du langage joui, là où ça parle, ça jouit. L'irruption de cette chose invraisemblable, c'est que de la grande réserve des signifiants quelconques de la langue, un entre autres est élu par la jouissance et devient un signifiant joui qui passe au signe, devient signe d'un sujet, un essaim passé au langage. On a développé ça aussi antérieurement, mais voilà. Je reviens au texte. Le signifiant un n'est pas un signifiant quelconque, pas un signifiant entre autres. Il est l'ordre signifiant en tant qu'il s'instaure de l'enveloppement par où toute la chaîne persiste. Commentaire. Son hypothèse que l'individu qui est affecté de l'inconscient est le même qui fait ce que j'appelle le sujet de l'inconscient, que cette hypothèse est égale à la formule minimale qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, le signifiant n'étant rien d'autre qu'une simple différence avec un autre signifiant, son hypothèse porte donc tout l'accent sur le 1, qu'il soit élément signifiant ou élément joui. J'ai été arrêtée par le paragraphe qui suit, qui m'a semblé trop simple en apparence, dans lequel Lacan interroge la confusion par la personne qu'il cite là sur la relation entre le S1 et le S2, qu'elle prend pour de la représentation. Le S1 serait en relation avec le S2, pour autant qu'il représente un sujet. Au début, je me suis demandé si la confusion était entre le Vorstellung, la représentation imaginaire, et le représentant, symbolique. En fait, il m'est apparu que Lacan part de ce contresens pour reposer la relation entre le S1 et le S2 en reprenant le schème à partir du 1 incarné dans la langue. Le vrai S1, le vrai signifiant maître, dit Colette Solaire lors de son intervention à la Journée nationale en décembre dernier, le vrai S1, c'est celui de la fin d'encore. C'est le 1 incarné de la langue qui est quelque chose qui reste indécis entre le phonème, le mot, la phrase, voire toute la pensée prise pour du 1. C'est ce dont il s'agit dans ce que j'appelle le signifiant maître. C'est le signifiant 1, qu'il représente d'un rond de ficelle en vue des opérations de nouage. Lacan vient de découvrir, l'année précédente, les anneaux de la dynastie des Borromées, ce qui lui permet de passer l'ordre signifiant du 2 des maillons de la chaîne au 3 du nœud borroméen. Le rond de ficelle, dit-il, est la plus éminente représentation de l'un, en ce sens qu'il n'enferme qu'un trou. C'est toujours du signifiant que je parle quand je parle du Yadelin. Il est assurément le signifiant maître. Je me suis même demandé s'il mettait une majuscule à 1 en raison du signifiant maître. C'est à part. Ce vrai signifiant maître est un signifiant directement connecté, non pas au sens, mais à la jouissance. C'est un 1 incarné qui prend corps. Mais de quel 1 s'agit-il? D'où viennent-ils ces 1 incarnés passés au langage? Des 1 indécis de la répétition du trauma des traits unaires avec l'effet de perte de la marque du signifiant, ou de l'inertie constante du 1 du symptôme sans entropie, sans effet de gain. Son hypothèse que le corps affecté est le même que le sujet de l'inconscient et que la jouissance de son acquisition est la même que celle de son exercice assure l'unité du savoir inconscient. L'unité de jouissance du 1 incarné dans la langue, En même temps, elle fait revenir le sujet à une autre place que supposée à la chaîne ou exclue du savoir sans sujet. Du coup, le savoir de l'un concerne le corps affecté qui supporte le sujet, le corps-sujet qui parle, selon l'expression de Colette Solaire. Une place donc moins consistante que dans la structure du langage, car lesté de l'unité de jouissance du savoir parler joui, d'un jouir sans perte du symptôme. De l'inconscient chaîne, Lacan est passé à l'inconscient savoir sans sujet, qui détermine non pas le sujet mais sa jouissance. Cette coupure entre S1 et S2 va conduire Lacan au réel de la langue et sa jouissance opaque d'exclure le sens. D'où un deuxième niveau de lecture du schéma, du schème. Le schéma a perdu son petit temps, du côté de l'inconscient réel. Cette fois, il n'y a pas de relation entre S1 et S2. Là, je vais me faire le passeur de la lecture approfondie par Colette Solaire de ce schéma versus inconscient réel dans son texte de Cerisy, L'énigme du savoir. Le 1 incarné, écrit au pluriel dans le schéma, c'est le pluriel des 1 que l'on déchiffre dans une analyse. Mais c'est de là que s'élève un S1, en début de la ligne, le S1 de l'ensemble, l'indire qui est celui de la langue. Je l'appelle, dit Lacan, l'indire plutôt que monade, l'un qui se sait tout seul, point de réel du rapport vide. C'est lui qui assure la copulation du sujet avec le savoir. Ce un de l'essaim, dit-elle, reste indécis pour le savoir de la langue imprenable. C'est une unité de jouissance incertaine mais constante, expérimentée à travers les inerties et les affects subjectifs qu'elle produit. Cette constante n'est pas seulement celle de la perte engagée dans la répétition, mais celle du noyau réel du symptôme. C'est lui qui assure une certaine constance de la cohabitation de l'inconscient avec le langage. On retrouve la même division au niveau de l'inconscient réel que dans la structure de langage, avec l'impossibilité de la conjonction du S1 de l'unarité du par-lettre au S2 du savoir des 1 incarnés de la langue. Impossibilité de conjonction. Le savoir inconscient, interroge-t-elle, concerne-t-il dans ce schéma le S2 ou l'ensemble? Réponse, des deux côtés. Cet inconscient ne peut être que hors sens, réel donc. Les uns qui se répètent ne prennent pas sens du S2 auquel le sujet n'a pas accès. Ce que l'on peut savoir du savoir inconscient entre le 1 incertain et le savoir de la langue apprenable, c'est l'unité de jouissance positive sans perte du symptôme que l'on éprouve, qui fait mon unarité de parlettre, ma différence inamovible, mon unarité de jouissance, mais me condamne à l'indire hors sens. Lacan est passé de l'effet de perte lié à l'objet A à une constante de jouissance. Dans le séminaire ou pire, Lacan précise quelle doit être la raison de l'orientation de l'analyste en fin de cure, qui est de se repérer moins sur la cause que sur ce qui se produit d'effet d'affect. Je le cite. L'utilité qu'il y ait de l'un, c'est d'admettre, devant la bipartition, à chaque instant fuyante de l'homme et de la femme, qu'on ne peut servir en catégorie d'attributs, il n'y a pas de catégorie d'attributs pour l'un et l'autre, d'admettre l'inaccessibilité entre l'un et l'autre. Inaccessibilité, alors là je précise, c'est une phrase que j'aime beaucoup, inaccessibilité qui doit permettre à l'analyste d'entendre un peu plus loin que les verres de lunettes de l'objet A, la cause, d'entendre ce qui se produit des faits, la fête, ce qui se crée d'un par un discours qui ne repose que sur le fondement du signifiant un. J'ai bientôt fini. La fonction de l'un n'est là que pour représenter la solitude du fait que l'un ne se noue pas à l'autre sexuel. Ce qui parle, l'indire de la langue qui parle seule, n'a à faire qu'avec la solitude, cette solitude de rupture du savoir. Où s'indique dans l'expérience le savoir non anthropique, cette constance de jouissance des éléments incarnés et insus ? Réponse, dans le noyau inamovible du symptôme réel, avec sa jouissance impensable, mais qui s'éprouve dans les affects énigmatiques. Et je conclus, à la fin d'une analyse, devant la rencontre impossible avec le savoir inconscient, il reste la reconnaissance des uns, des affects énigmatiques, au hasard des fixations de jouissance et des uns du dire. Je vous remercie.
Merci Françoise, je n'avais pas donné votre titre, je suis désolé, c'était le vrai S1, effectivement vous l'avez précisé. Le titre de Colette Solaire, c'est « La langue et l'ordre du langagier ».
Oh, je crois qu'il est dû.
Ah, et l'ordre langagier.
Alors, je n'étais pas du tout, Françoise et moi, nous nous étions pas du tout consultés. Donc je ne savais pas qu'elle allait me citer. Mais enfin, c'est pas mal parce que depuis ce que tu as cité, j'ai fait quelques pas. Alors, pour terminer l'année, donc, je voudrais d'abord revenir sur ce qui me paraît être l'enjeu des 2 pages et demie que nous avons commencé à commenter depuis mai, avec les lectures de Claire Duguay, Patricia Zarowski et aujourd'hui Françoise. Je crois que dans cette partie conclusive de l'année du séminaire, après avoir tellement accentué la fonction de la langue, Lacan revient à l'inconscient langage et à ce qui le constitue et à ce qui le conditionne. C'est ce que je vais essayer de montrer. À propos de l'un, il y a 2 questions distinctes dans ces 2 pages. Françoise les a évoquées, et ces 2 pages y répondent. Évidemment, il faudra voir pourquoi les 2 questions se posent et quel est l'enjeu. La première question, c'est comment le signifiant vient-il à représenter un sujet ? Faute de quoi ? On ne pourrait pas parler de langage. La question se pose parce que dans la langue, les signifiants ne représentent rien. Il n'y a dans la langue que des différences. Et la réponse à la question « comment le signifiant vient à représenter un sujet ?» est donnée par l'hypothèse Lacan. Deuxième question. Les signifiants qui représentent un sujet, qui en sont le signe, il n'y en a pas qu'un. il y en a une série. Et vous pouvez en mettre autant que vous voudrez, dit Lacan. C'est la série du déchiffrable. D'où une deuxième question. Quel est le 1 qui donne son unité à la série multiple du déchiffrable et qui donc permet de dire que chacun a un inconscient et un seul? C'est cet autre 1 que Lacan nomme signifiant maître et dont il commence dans cette fin de séminaire à essayer de préciser la fonction. Alors, je reprends le premier point. Comment le signifiant vient à représenter le sujet. Tous les signifiants, quels qu'ils soient, sont extraits de la langue. La langue, c'est le lieu où ont échoué, comme autant d'alluvions, tous les signifiants qui ont été en usage dans le discours de l'autre, plus largement dans le discours social. En usage implique que ces signifiants ont été durant un temps porteurs des émois et des jouissances des parlants d'une époque, ou d'une famille, ou d'une mère. Et c'est pourquoi chaque langue évolue. Pourquoi aussi Lacan peut dire qu'elle est du bois mort, comme les alluvions, même quand elle est dite vivante. La langue se distingue de ce que Lacan nommait l'ordre signifiant, c'est-à-dire le langage dans les quatre concepts. Il le nomme ici l'ordre symbolique. Il n'y a d'ordre signifiant, disait-il, que parce que le signifiant représente un sujet pour un autre. La différence entre l'ordre signifiant et la langue est facile à écrire. L'ordre signifiant, il se représente par sa cellule minimale. Sa cellule minimale, c'est celle de la première parenthèse. S1, S2. Depuis bien longtemps, d'ailleurs, Lacan parlait de la paire ordonnée. Vous vous souvenez, ça s'écrivait déjà S1, S2. Cette paire ordonnée qui est comme l'atome de la combinatoire signifiante du langage. La langue, elle s'écrirait S1, S1, S1. 1-1-1 plutôt. Sans parenthèse qui la contienne. Multiplicité inconsistante. D'où la première question. Comment le langage se fait-il dans la langue? C'est une formule de télévision. Faire le langage dans la langue. Comment les 1 qui vont représenter le sujet sont extraits de la multiplicité? Et c'est par son hypothèse que Lacan répond. Du fait du fonctionnement de la langue, j'avais souligné le terme, fonctionnement de la langue, c'est-à-dire du fait qu'il y a des sujets qui usent de la langue, que la langue est parlée donc, eh bien, les 1 de la langue atteignent la substance corporelle, affectent le corps, et du coup, ces signifiants de différence deviennent signes, signal d'un sujet, signal de l'individu corporel transformé en sujet, sujet que ces S1 représentent dès lors, auprès de tous les prédicats possibles, autre terme important. Et comment se signale qu'un signe est un signe? Demande Lacan en octobre 73, juste après, dans l'introduction à l'édition allemande des écrits. C'est juste après le séminaire encore. Hein. Réponse de Lacan, je cite, « Le signe du signe, c'est que n'importe quel signe fasse aussi bien fonction de tout autre, précisément de ce qu'il puisse lui être substitué. Car le signe n'a de portée que de devoir être déchiffré. » Alors, je rappelle ce texte pour bien souligner que ce qu'il nomme signifiant signe, ce sont les signifiants insus de l'inconscient que l'on déchiffre dans l'analyse. Dans le compte-rendu de Houpire, Silly 7.5, page 9, qui est un texte plus tardif, je crois, hein, parce que Silly 7.5 est sorti en 1975 et Lacan ne donnait pas ses textes à l'avance. Donc, dans le compte-rendu de Houpire, parlant de l'inconscient chiffreur, donc celui que l'on déchiffre, il dit « Il sait ce qu'il a à faire, c'est sa définition. Il suppose un sujet, l'inconscient chiffreur. Le signifiant devenu signe, donc je crois, il n'y a pas de doute, c'est le signifiant que l'on déchiffre et qui suppose ou représente, comme on veut, le dit sujet de l'inconscient, celui qu'on appelle sujet de l'inconscient depuis le début. » Dans le schéma 2 encore, ce sont tous les 1, Françoise les a bien distingués, écrits dans la parenthèse. Et il y en a autant que l'on veut qui se substituent les uns aux autres. Cependant, aucun ne donne accès au savoir de la langue, qui lui échappe. Le savoir de la langue échappe par nécessité logique, du fait de la récurrence de la cellule élémentaire S1, S2. Quels que soient les S1 qui émergeront par le déchiffrage de l'inconscient, par exemple dans un lapsus ou par tout le chiffrage de l'analyse, ils seront en manque du S2, du savoir de la langue, parce qu'ils ne l'épuiseront pas. Ce ne sont donc que ce que Lacan appelait des bouts d'inconscient, des bouts d'inconscient langage. Alors je tiens à souligner que dans ce paragraphe sur l'hypothèse, il n'y a rien de foncièrement nouveau. On savait déjà tout ça si on avait lu Lacan avant. C'est la première fois que Lacan énonce son hypothèse, mais elle était là depuis longtemps. C'est l'hypothèse du langage opérateur, produisant le sujet comme effet du signifiant. Elle était là, cette hypothèse, dans sa construction de la genèse du désir. Et plus lisible encore, explicite dans sa reconceptualisation de la pulsion freudienne, en 64. Il posait que les signifiants, ceux de la demande, hein, dès lors que l'enfant entre dans la demande articulée, transforme le besoin en pulsion, découpant sur le corps les zones érogènes et générant une poussée qu'aucun besoin ne connaît. Le besoin, c'est l'individu vivant et les pulsions sont du sujet. Transformer le besoin en pulsion, c'était déjà très clairement une formule de l'hypothèse du langage opérateur, qui touche un autre que lui-même, l'expression il la met dans encore, le vivant, ce vivant qui en est fait sujet. Subversion du sujet d'ailleurs, questionnant ce qu'est le sujet de l'inconscient, disait déjà, on le cherche dans un repérage organique avec la pulsion. Donc c'est vraiment l'hypothèse. Elle était là dès les années 58. Certes, alors il ne parlait pas de la langue. Il parlait de l'autre, du discours de la demande. Différence, me direz-vous. Oui, ça fait une différence. Mais s'il évoque le fonctionnement de la langue, ici, c'est parce que les signifiants de la langue n'ont d'impact que parce qu'ils sont véhiculés par un discours émis. Donc, discours de l'autre. On s'épargne donc, je crois, beaucoup de tracas si on reconnaît les thèses préalables de Lacan dans l'hypothèse de la page 130 du séminaire encore qui les synthétise. Pour la suite de la page, c'est autre chose. Pour la partie que Françoise a commentée, là, oui, je crois qu'il y a du nouveau, quoique le Yadelin ait été formulé l'année précédente. Alors, je tâche de saisir ce qui est en jeu. Avec la seule hypothèse du langage opérateur, générant le sujet de l'inconscient. On ne pourrait pas dire « il y a de l'un ». On pourrait seulement dire « il y a des uns ». On pourrait dire « il y a des uns de deux types ». Les uns de différence de la langue et les uns des signifiants signes qui représentent le sujet. Ça ferait déjà deux types de uns. Comment, de la multiplicité des uns déchiffrables, on passe au singulier du Yadlin ? Le un de Yadlin n'est pas n'importe lequel, Françoise y a bien insisté, ce n'est pas un signifiant entre autres. Dans le compte-rendu de Houpire, il dit « il surmonte ce un, il surmonte », j'aime beaucoup le terme, « ce en quoi ce n'est que de l'entre-deux de ces signifiants que le sujet est supposable ». Alors ce un, il n'est pas écrit dans la parenthèse. Et de fait, Lacan a écrit un qui n'est pas dans une parenthèse. Vous le voyez dans le schéma. J'ai beaucoup insisté, et c'est vrai jusque-là, sur la dernière affirmation, Françoise l'avait évoquée, du paragraphe, à savoir que ce « un » qui est n'importe quel élément de la langue peut aller du phonème à toute la pensée. J'ai insisté sur le fait qu'il n'est pas identifiable avec certitude, incertain et hypothétique. J'ai fait grand cas de ce point dans mes développements préalables, pour inviter chacun, en fait, et notamment les passants, à ne pas trop se focaliser, comme on les y invite parfois, sur l'identification de ce « un ». Mais la thèse du « un » incertain pose problème, le problème des exemples à produire. Dès que l'on parle de ce « un », du « Yadlin », l'écho répond « des exemples », oubliant que si ce que Lacan dit est vrai, alors tous les exemples seront incertains et hypothétiques. Bon. Alors, est-ce que c'est une thèse sans exemple ? Ce serait un peu fort dans la psychanalyse. Ce point m'a beaucoup tracassé, mais je crois que j'en suis venue à bout grâce à cette fin de séminaire. En effet, incertain, ça ne signifie pas inexistant. Et c'est ce que je n'ai pas assez accentué jusque-là. Si on l'accentue, comme je vais le faire, eh bien je crois qu'on aperçoit une perspective qui mène assez loin de la seule captivation par la langue. Le texte pose que ce « un », pour incertain qu'il soit, il a une fonction qui n'est pas n'importe laquelle. Elle est précise, elle n'est pas incertaine. Lacan en dit deux choses. En dit ceci, ce un assure l'unité de la copulation avec la langue. La cellule minimale, de la copulation avec la langue, je l'ai dit, c'est ce qui est dans la première parenthèse. C'est la cellule de base de tout inconscient langage, de tout ordre signifiant. C'est dire que le S1 de l'essaim s'y assure une constante. Dire qu'il assure l'unité, c'est dire qu'il assure une constante. Quelque chose qui ne change pas, malgré la variété des signifiants hétérogènes que l'on déchiffre. Sans ce 1, on aurait un autre schéma. On aurait le schéma d'ordre langagier multiple. On aurait désordre. Vous pouvez écrire désordre en un mot, si vous voulez, pour faire désordre. Bon, voilà ce qu'on écrirait s'il n'y avait pas le 1 de l'unité. On pourrait écrire, bien sûr, S1, S2. Voilà un ordre. Et puis S1, S2, en voilà un autre. Et puis S1, S2, ainsi de suite. Que l'on puisse écrire le schéma de Lacan, c'est parce qu'il y a le 1 de l'unité. ce 1 n'est aucun des autres 1 que l'on a évoqués. Dans le schéma de Lacan, on peut penser que c'est le 1 hors parenthèse. Moi, je trouve que ce serait beaucoup plus visible. Je me permets de suggérer quelque chose. Bon, ce serait beaucoup plus visible si au lieu de mettre ce 1 là, on mettait une accolade. Vous voyez ? On mettait une accolade. Ça évoquerait comme un seul baiser, une seule embrassade avec la langue. Puisque accolade. Bon. En tout cas, ce 1, il est hors de la structure de langage. C'est lui qui constitue en unité de langage la diversité de ce qui se déchiffre. Un 1 hors langage. Je cite le compte-rendu de Houpir, inconscient en tant qu'il se manifeste comme existant, réel donc, mais constituant de l'inconscient langage. Alors quel est l'enjeu de la question ? L'enjeu m'apparaît plus clairement. Je le trouve nettement indiqué dans la phrase que Françoise a d'ailleurs évoquée. Le signifiant 1, dit-il, c'est l'ordre symbolique, en tant qu'il s'instaure de l'enveloppement par où toute la chaîne subsiste. Il est clair que là, il parle de l'inconscient langage, l'inconscient chaîne. Enveloppement. Les parenthèses du schéma sont propices à figurer l'enveloppement. Et la subsistance de la chaîne, ça ne peut désigner que la subsistance de l'inconscient langage, celui qui s'écrit dans la parenthèse. Le signifiant maître, c'est le 1 de l'inconscient langage. Dire, comme Lacan y insiste, que dans la parenthèse des 1 déchiffrés signes du sujet, on peut en mettre autant qu'on veut, hein, vous avez lu ça ? C'est dire que la série n'est pas bornée. C'est le problème que Lacan a formulé depuis longtemps du point de Capiton, en fait. Il l'évoque d'ailleurs, le point de Capiton, dans les chapitres précédents à propos des phrases interrompues. La série n'est pas bornée. La série du déchiffrable, pas plus que du langage, donc. Du langage inconscient. Pas plus que ne l'est celle des nombres entiers. Ce pourquoi on a parfois évoqué le passant comme un cantor en herbe, cherchant à inventer son aleph zéro, puisque l'aleph zéro, le premier transfini de cantor, c'est le nom d'unité d'une série non bornée. Je ne crois pas que Lacan ait jamais eu cette idée du passant cantor. S'il l'avait eu, en tout cas, il en a rabattu, parce qu'en 76, dans la préface, il invite seulement le passant à s'historiser avec un Y. Et s'historiser, c'est bien produire de l'unité, mais seulement celle d'un récit. Rien à voir avec l'aleph zéro. Le terme « subsistance de la chaîne » évoque à la fois la consistance, le « ça tient ensemble », la permanence et la jouissance. Cette phrase est capitale à mes yeux, après tout ce qui a été dit dans ce qui précède. Elle doit être mise en balance, cette phrase, avec l'affirmation que l'inconscient déchiffré, sous transfert donc, est une élucubration. Il est élucubration, l'inconscient déchiffré, car toujours partiel, il n'épuise pas le savoir de la langue, mais il n'empêche, et c'est ce que dit la phrase, que je souligne, que déchiffré ou pas, la chaîne subsiste, hors transfert, et que le sujet le sache ou pas. Subsistance de la chaîne, thèse très forte. Autrement dit, l'unité de l'inconscient langage, chaîne, soit signifiante ou borroméenne, suivant les périodes, est réelle, autant que la motérialité de la langue. C'est le 1 le 1 dont on va voir ensuite le statut qui le constitue. Sans ce 1, pas d'inconscient langage, mais des ordres langagiers. Pas d'inconscient langage assez consistant et subsistant pour qu'on puisse le dire lui aussi réel, cet inconscient langage. Il faut donc arrêter de penser que l'inconscient réel, c'est seulement la langue. L'inconscient réel, c'est aussi l'inconscient langage. Avant d'aller plus loin, vous voyez que même s'il reste incertain, même si on ne peut pas l'exhiber, ce 1, il peut cependant s'attester. Il se prouve pour un sujet donné par la subsistance et l'unité de l'ordre symbolique de son inconscient, qui, elle, prête à diagnostic. C'est donc la consistance de l'ordre langagier de l'inconscient langage qui atteste du 1 unifiant. Qui, lui, le 1 unifiant, n'est pas langage, hein, qui existe au langage. Quand Lacan dit le langage, ça n'existe pas, l'accent est à mettre sur l'article le. Car pour ce qui est de un inconscient, du commun langage, c'est de ce dont nous nous occupons tous les jours en analyse. Cette question ne doit pas vous paraître abstraite. J'espère qu'elle ne vous paraît pas abstraite. Elle est éminemment clinique, puisqu'il est des sujets pour lesquels cette unité et cette subsistance ne se produit pas. Et quand elle ne se produit pas, que voit-on dans les phénomènes ? Soit la jouissance de la langue hors langage, la preuve par le schizo, avec ou sans ses langues, soit la mentalité flottante et désarrimée, non capitonnée par du réel, ou encore le discours comme si de l'hypernormalité, non lestée de réel. Autant de sujets, en tout cas, pour lesquels l'unité de la copulation avec la langue ne se produit pas et donc ne subsiste pas. Nous retrouvons donc en sourdine, avec ce 1 du Yadelin, la préoccupation constante qui fut celle de Lacan concernant la psychose et ce qu'elle représente pour la psychanalyse selon lui. Un critère diagnostique pourrait s'en dégager, délicat à manier, l'unité du langage inconscient, voire du récit, suffit à assurer qu'un sujet est hors psychose. Non, après, il faut diagnostiquer l'unité, bien sûr. Vous voyez, j'espère, le panorama qui s'ouvre à partir de cette phrase. Ce S1 n'est pas un signifiant de l'autre. Les 1 du sujet écrits dans la parenthèse sont tous des signifiants de l'autre, des signifiants de la langue qui lui sont venus au sujet par le discours de l'autre. Souvenez-vous de ce que nous avons commenté dans les chapitres précédents. Les signifiants sont dans l'autre, à prendre. Sauf que Lacan dit l'autre, c'est l'inconscient. Tous dans l'autre, sauf un qui s'accepte de tous les signifiants de l'autre, du langage. On reconnaît là la construction même que Lacan a utilisée au départ pour essayer de situer l'effet de la fonction d'exception du père. Et ceci dès la métaphore paternelle. Lui non plus, le nom du père n'était pas un signifiant quelconque, pas même un signifiant, mais un inconditionné logique de ce qui se montre dans les phénomènes, à savoir la subsistance de la chaîne inconsciente. Les écritures sont homologues, c'est impressionnant, hein. Le schéma de encore, n'est-ce pas ? Ça nous donne ça, je mets des crochets pour que ça se voit mieux. Ici, on a l'inconscient langage. Et ici, on a le 1 du Yadlin hors langage. Comment écrivait-il le résultat de la métaphore paternelle? Ça s'écrivait nom du père, grand A, apparaissant dans la parenthèse, et sur moins phi. On avait exactement un 1 hors de l'autre écrit dans la parenthèse. Homologie. Évidemment, la différence, il y a une différence quand même, la différence c'est que la métaphore, une métaphore, ça produit de la signification, celle du manque phallique. Et qu'au moment où nous sommes de l'élaboration de Lacan, la subsistance de l'ordre symbolique signifiant ne connote pas le manque phallique, il connote les jouissances propres au langage, perverse polymorphe, phallique ou jouissance en deux mots. On est donc sur le thème de ce qui conditionne l'inconscient langage que Freud a porté sur les fonts baptismaux, si je puis dire. Lacan a d'abord fait du père sa condition et il poursuit ici sa recherche de ce qui peut tenir lieu de cette fonction d'exception. À partir de là, s'ouvre le chapitre des noms des uns d'exception qui ne sont pas pères. Ou plutôt, ce chapitre se réouvre, puisque Lacan l'avait ouvert, mais refermé avec le séminaire interrompu « Les noms du père ». Et je ne m'étonne plus qu'il ait intitulé le séminaire après encore « Les noms du père ». Confirmation que c'est bien ce thème qui court. Les noms des uns d'exception, dans les années qui suivent encore, au temps du Neuboroméen, Lacan a essayé de nous les donner. D'ailleurs, dans encore, il fait une première tentative pour situer sa fonction dans le nœud borroméen au 1 d'exception. C'est le schéma de la page 113, hein, où il y a une chaîne, un nombre indéfini de ronds qui fait chaîne, et il y en a un seul, celui que j'ai marqué en rouge, qui fait tenir le tout. Vous l'enlevez, l'inconscient langage saute, il n'y en a plus. Donc Lacan, dès encore, commence à essayer de situer dans le nœud borroméen la fonction du 1 d'exception. Dans un récit, il reconnaît le 1 d'exception dans ce qu'il appelle la lettre du symptôme, qui de l'inconscient fait existence dans le réel. Et il dit... Je vous le rappelle, c'est une phrase très connue. N'importe quel élément de l'inconscient, on pourrait injecter là la phrase de encore, du phonème à toute la pensée, peut s'écrire d'une lettre. Lettre unique à être identique à elle-même, constante donc. Cette lettre du symptôme, il l'écrit d'ailleurs, dans les récits, entre symbolique et réel. Comme ce qui fait exister l'inconscient dans le réel, et il lui attribue la fonction de limiter l'inconscient langage. Exactement le même schéma. Pas exactement, mais avec des variantes. Il s'en est pas tenu là. Dans le séminaire suivant, le symptôme, qui n'use plus de la mise à plat du nœud. Et sans mise à plat, il n'y a pas d'intersection. Hein. Donc, il fait du symptôme, fiction de jouissance, l'élément quatrième, qui fait tenir les trois de la chaîne borroméenne. Et il oppose ce quatrième, fiction de jouissance, au symbole. Symbole, autre nom de l'ordre symbolique. Et puis, ce n'est pas la fin, puisque ensuite, il fait du quatrième, non plus le symptôme, mais le dire. Le dire de nomination. L'un dire. Qu'il évoque dans Au pire comme présentification de ce signifiant hors langage. Le dire éventuellement hérétique, c'est-à-dire qui choisit, je l'avais commenté l'année dernière à propos de Joyce, le dire hérétique ou pas, qui nomme, et nommer, ça fait comme le père. Comme le père, sauf que ça n'a pas toujours grand-chose à voir avec les papas. car le dire de nomination n'a pas d'agent prescrit. Le dire qui nomme, néanmoins, assure l'unité et la subsistance de l'ordre, il ne faut plus dire seulement symbolique, mais borroméen. Le dire est en lui-même exception, existentielle, exception existentielle à la fois par rapport au signifiant et à la jouissance réelle. Alors, de fait, l'ordre langagier n'est instauré, le signifiant n'émerge et la langue ne devient langage que parce qu'il y a des sujets qui usent de la langue. Et il n'y a pas moyen d'user de la langue sans l'acte du dire. Bon. Le dire qui n'est pas l'énonciation des années 60. Hein. L'acte du dire qui met en jeu le niveau existentiel. Avec ça, avec l'identification du quatrième du un hors langage par le dire, on est passé d'une contingence à l'autre concernant le un. On est passé de la contingence d'une épiphanie des lettres fiction de jouissance à la contingence d'un dire. Mais ce sont deux contingences. Il s'ensuit que la langue maternelle, en tant qu'elle n'est pas la langue en général, la langue maternelle naît que parce que la mère en a usé pour parler. À cette condition, elle n'est donc pas multiplicité inconsistante, comme le sont toutes les langues. Elle est portée par l'ordre langagier du discours, autant qu'elle le porte. Il faut le saisir pour comprendre, je crois, ce qui m'avait d'abord étonné dans la conférence sur le symptôme de 75 à Genève. Dans ce texte, Lacan connectait l'entendu des éléments sonores à la jouissance. Bon, ça, on a compris, jouissance de la matérialité. Mais tout autant au désir qui a accueilli l'enfant. Or, le désir n'est pas du tout effet de la langue. Le désir est effet du discours de l'autre. Bon. Il n'y a pas de contradiction, en fait. Il n'y a pas de contradiction parce que la langue n'a d'effet que par son fonctionnement, c'est-à-dire le fait qu'on en est usé dans un dire. Théoriquement, je conclus ce développement, théoriquement, on peut certes aller de la langue, condition première et réelle, qui affecte, au langage qui n'existe pas en tant que tel, qui n'est que parce qu'il y a des sujets qui parlent, qui usent de la langue. Mais dans l'expérience concrète, on va du langage, du discours proféré, ce que Lacan appelait un temps l'autre, à la langue dont il use ce discours pour ses maîtres. Et c'est d'ailleurs l'itinéraire qu'a suivi Lacan lui-même. Il a commencé par... Il est allé du langage, il a commencé par développer la structure de langage jusqu'à plus soif, métaphore, métonymie, bon, on connaît tout ça, du langage à la langue. Mais c'est que l'ordre diachronique de l'expérience n'est pas l'ordre synchronique des raisons. Donc il ne faut pas qu'on confonde les deux ordres. On croit que le synchronique est le premier dans l'expérience. Ce n'est pas le cas. Peut-être, d'ailleurs, faut-il tenir compte de ce fait que l'ordre diachronique de l'expérience n'est pas l'ordre synchronique des raisons. Quand nous parlons de la langue, ce qui est fréquent maintenant, il ne faut pas oublier que quand nous en parlons, ce n'est pas elle qui parle. Hein. Et nous ne faisons pas plus que monter un langage sur la langue. Un langage qui est ce que nous essayons de savoir d'elle, qui se tait. Bon. Alors, je vais conclure, puisqu'on est au bout de l'année, et moi, au bout de mon exposé, que peut-on savoir du savoir inconscient ? Beaucoup, je crois, si on ne se refuse pas aux conséquences des thèses qu'on a lues, d'abord, rien qui n'est la structure de langage. Et dès lors, on sait que l'on n'en saura pas tout. Que nul ne peut franchir le mur du langage, que la langue restera imprenable, comme je me suis exprimée, puisque rien n'est tout dans la structure de langage. Ensuite, que le savoir inconscient, qu'il s'agisse des signifiants qui chiffrent la jouissance, ou des uns qui existent, ou du un, pardon, qui existe, le savoir inconscient se constitue dans le sans raison d'une double contingence qui fait le passage des uns de la langue au signifiant du sujet et au un de leur unité, de l'unité de langage. Ce savoir contingent est en outre joui sans perte. Autre acquis du séminaire, pas dans le dernier chapitre qu'on a commenté aujourd'hui. Joui sans perte, qui campe dans la parole analysante, qui est réelle, réelle du hors-sens pour les signifiants du sujet, et réelle de l'existence pour le un. Réelle, ça veut dire incurable, par les remaniements de la vérité subjective. Point capital pour la direction de la cure autant que pour son but. J'ajoute encore ce dernier point, que le savoir inconscient qui s'est constitué au hasard à partir des uns différentiels de la langue, qui reste communément non su, peut être convoqué. Comment ? Par hasard. Par hasard. La clinique le montre. Une rencontre peut convoquer un signifiant de l'inconscient. On en a l'exemple majeur avec le rat, de l'homme au rat, qui a été convoqué par les hasards de la rencontre avec le capitaine Cruel. En analyse, les signifiants de l'inconscient, le savoir inconscient, peut être convoqué par une interprétation que je vais qualifier de hasardeuse. Hasardeuse, aussi hasardeuse que toute poésie d'ailleurs. Tous les coups sont permis, dit Lacan. J'ajoute, c'est au petit bonheur la chance. Pas de calcul de l'interprétation. Alors, ce savoir, est-il de l'analyste ou de l'analysant ? Mais n'oublions pas qu'il n'y a d'analyste que parce qu'il y a eu analysant. Disons donc, savoir de l'analysé ou de l'analyste, puisque tout analysé n'est pas obligé de devenir analyste. Savoir de l'analysé ou de l'analyste, savoir de l'analyste, l'expression est de Lacan 70, avant que Miller ne l'efface, ce savoir de l'analyste, par un artifice éditorial. Mais rappelons-nous qu'il y a eu un séminaire sous le titre « Le savoir de l'analyste ». Quel usage pour chacun ? Que feront-ils de ce qu'ils en savent ? Je laisse à part ce qu'ils en feront dans leur vie au sein du discours commun. Mais dans l'analyse, l'analyste, si la transcendance de ce qu'il a aperçu de l'inconscient réel, qui est une transcendance, le réel est une forme de transcendance, si la transcendance de ce qu'il a aperçu de l'inconscient réel l'a soulevé assez pour le porter au-delà de savoir y faire avec son symptôme, qui n'est pas si compliqué finalement, l'a soulevé assez pour le porter jusqu'à un nouveau désir, alors il voudra tenter d'y conduire quelques autres et il en orientera évidemment ses interventions. Par exemple, il ne rêvera pas de soigner le réel de la jouissance par la vérité, sachant que c'est plutôt le réel qui limite la vérité. Il ne craindra pas les interprétations hasardeuses ou poético-hasardeuses, à condition qu'elles ne fassent pas proposition, qu'elles ne disent rien, comme je m'étais exprimée autrefois, pour signifier qu'elles ne ciblent que le réel et pas la vérité, etc. etc. Je termine donc sur cet « etc. » des usages qu'il en fera, et il est à ajuster en chaque cas. Voilà, j'ai fini.